n'ai pas tellement de certitudes au sujet de la vie en général, mais s'il y a une chose qui me semble importante, c'est de savoir exprimer sa gratitude envers tout ce qui nous arrive de bien. Être conscient des événements agréables qui nous sautent dessus, tous ces hasards que l'on n'attend pas et qui nous mettent en joie. Et c'est précisément ce que je m'apprête à faire devant vous. Je suis un passionné de musique et j'ai eu la chance d'apprendre à en jouer. Je vis à une époque où grâce à Internet, l'accès à la musique est illimité, mais surtout, depuis des années, mon sac de mélomane a été grassement rempli par toutes sortes d'oreilles extérieures généreuses en partage. Aujourd'hui, c'est encore une de ces esgourdes éclairées que je souhaite mettre à l'honneur, un pote de musique bien sûr, mais avant tout, un ami cher avec qui j'ai eu le bonheur de partager quelques scènes quand nous jouions au sein du même groupe. Nos discussions musicales nous ont souvent emmenés vers une multitude de genres et d'époques, et je suis ravi de partager le micro avec lui aujourd'hui. Pour mon plus grand plaisir, je reçois dans Des potes et des albums mon pote Guiche. Salut Guiche.
Salut Eric.
Ça va ?
Ça va très bien.
Pour préciser, on fait cet enregistrement à distance parce que nous habitons à quelques centaines de kilomètres. Donc s'il y a un petit différentiel de son, ça sera la raison. Alors Guiche, c'est pas ton prénom, hein, mais moi je t'ai toujours appelé comme ça. On va peut-être pas dévoiler ce pan de ton intimité. Enfin, c'est comme tu veux.
Si, on peut dire que je m'appelle Antoine et que Guiche est un surnom qui vient de longtemps et dont l'explication s'est perdue dans les méandres du temps.
Voilà, bah, comme souvent d'ailleurs. Alors Guiche, on est potes depuis 15 ans, une quinzaine d'années, et tout de suite, bah, je vais te laisser nous annoncer ton choix d'album pour cet épisode.
Oui, donc moi j'ai voulu aujourd'hui qu'on parle de l'album Murder Ballads de Nick Cave, un album qui est sorti en 96, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Et donc qui, comme son nom l'indique, parle de joyeuseté macabre et un peu glauque, hein, on ne va pas se le cacher.
Ouais, tu peux nous dire en gros les raisons de ce choix ?
Ouais, alors ces raisons de ce choix, c'est parce que c'est le premier album de Nick Cave que j'ai écouté en entier. Donc ma relation avec Nick Cave, moi, elle vient de... Alors je pense que, si je dis pas de bêtises, j'ai entendu Nick Cave pour la première fois en 98 avec le film Scream de Wes Craven, donc film d'horreur avec des étudiants, là, un teen movie, film séminal du teen movie, quoi. Et donc où il y a la chanson Red Right Hand qu'on a pu réentendre notamment dans la série Peaky Blinders là récemment.
D'accord.
Et chanson donc très très inquiétante, hein, qui dans le film, ça apparaît un moment où ils sont en train de gérer un couvre-feu, donc tu sens bien qu'il y a une sorte de menace du tueur là qui pèse sur la ville. Et donc c'est ce rapport vraiment à Nick Cave que j'ai. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est quelqu'un qui m'a toujours parlé comme un peu comme un conteur d'histoire, quoi, un type qui raconte des histoires de fantômes et d'horreur au coin du feu, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a toujours fasciné chez lui. Et bon, moi, je découvre l'album Murder Ballads dans les années 2000, je pense.
D'accord. Ce que je te propose, je te coupe, je suis désolé. On va juste passer un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Et puis ensuite, on développe tout ça. Ça te va ?
Vas-y.
OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on passe comme premier extrait ?
On n'a qu'à dire la plus connue de l'album, Where the Wild Roses Grow.
Eh ben, allons-y. C'est parti. Kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza a day. Why they call me, it's I do not know. Donc c'était un extrait de Where the Wild Roses Grow de Nick Cave sur l'album Murder Ballads. C'est pas la chanson la plus représentative de l'album, on y reviendra après. Ce que je voulais savoir déjà, c'est que tu l'as dit, cet album sort en 96. Alors je sais plus quel âge tu as, mais tu me paraissais un peu jeune à l'époque pour ce genre d'album. Est-ce que tu le découvres à ce moment-là ou c'est un petit peu plus tard quand même ?
Non, je le découvre pas en 96. Moi, je le découvre, je suis au lycée dans les années 2000 et... je le découvre un peu comme tout ce que je découvre à ce moment-là dans ma culture musicale. C'est mon grand frère qui me fait écouter ça.
D'accord.
Effectivement, moi je suis né en 84, hein, donc 96, j'avais 12 ans, ça faisait un peu petit, mais donc mon frère a 7 ans de plus que moi, donc c'est lui qui me met le pied à l'étrier sur pas mal de genres.
D'accord.
Et donc notamment Nick Cave que je découvre en 2000 et Parce que, donc, comme je mentionnais précédemment, cette fascination pour tout ce qui est un peu histoire d'horreur, film d'horreur, tu vois.
C'est ce qui te plaît d'emblée dès que tu l'écoutes. C'est vraiment l'aspect histoire d'horreur, des choses comme ça.
C'est ça, ouais, de meurtres les plus épouvantables les uns que les autres. C'est ça qui me fascine un peu. Et puis, j'ai toujours aujourd'hui cette fascination pour le cinéma d'horreur. Hein,
c'est... D'accord. Et c'est donc cet album qui t'a ensuite ouvert les portes vers l'univers de Nick Cave.
Ouais, voilà, c'est ça. Et qui est beaucoup plus profond que juste ça, en fait. Hein, l'univers
D'accord.
de Nick Cave, on n'est pas...
Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Nick Cave, qui est un artiste absolument incroyable, de par la diversité de ce qu'il a fait, sa vie est incroyable aussi. Là, je vais te laisser en parler, tu sauras très bien parler, je pense.
Oui, Nick Cave, c'est vrai qu'il a une vie de roman, en fait, parce que c'est un type qui commence... il est né dans les années 50, je crois, donc bon, il est plutôt jeune, hein, mais il commence la musique en Australie. Il est originaire d'Australie, hein, il commence la musique là-bas. Mm-hmm. Ensuite, musicalement, il a plusieurs carrières, parce qu'il arrive à Berlin pendant les débuts du mouvement proto-punk, donc il est sur cette scène berlinoise qui est complètement hallucinante vu de notre époque actuelle, là. Ensuite, il a une partie de sa carrière qui se passe en Amérique du Sud. Il va vivre à Sao Paulo. Puis il revient, là aujourd'hui, il vit à Brighton. Enfin, il a vraiment sillonné le globe et il a fait quand même beaucoup de genres différents. C'est-à-dire que ses albums du début, il y a une chanson qui résume parfaitement un peu ce qu'il faisait au début, qui s'appelle From Her to Eternity, qui est sur son tout premier album. Éventuellement, okay. Tu peux peut-être mettre un extrait, qui est la chanson complètement dissonante, inquiétante, où sur scène on le voit marteler son piano, c'est complètement c'est exalté quoi comme style. Et ensuite, il a eu des périodes beaucoup plus crooner, où il est derrière son piano, sur des chansons beaucoup plus fréquentables, entre guillemets. Et jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui, où là, bon, il a eu... Voilà, quand je parlais de sa vie romanesque, il a quand même perdu deux enfants. Et ouais, tu sens qu'aujourd'hui, ça transpire dans sa musique, quoi. Tout est très funeste dans ce qu'il fait, c'est vraiment... il met beaucoup de lui, quoi. Et puis bon, c'est un acteur complet, un artiste complet parce qu'il a été acteur. Il a fait beaucoup de musique de film aussi avec son comparse Warren Ellis.
Warren Ellis, ouais.
Il a écrit des romans, au moins deux livres que j'ai lus, alors peut-être plus. Moi, j'ai lu Hélène Villange et Bonnie Monroe, donc qui sont des livres. Oui, c'est à l'avenant du personnage. Hein, et,
d'accord.
Et donc, c'est un mec qui, il a été junkie pendant plus de 20 ans. Je lisais encore une interview récemment où il explique qu'il a fait 16 overdoses dans sa vie. Enfin, d'accord, c'est un type, ouais. On se demande comment il tient encore debout, quoi. C'est une vie un peu folle, quoi.
Quand on regarde la nôtre, elle nous paraît un peu fade d'un seul coup. Ouais. Très bien, merci. Murder Ballads, donc pour les non-anglophones, ça veut dire quoi, les ballades meurtrières, c'est des chansons, l'ensemble de l'album raconte des histoires de meurtre, en fait. Ça s'inscrit, en fait, dans une tradition anglo-saxonne de récits de ce genre, des histoires de meurtre autour des crimes passionnels, et donc c'était une grande source d'inspiration pour Nick Cave, qui a beaucoup lu de romans, de faits divers et de nouvelles. On va passer un petit extrait. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On va mettre Lovely Creature, qui s'inscrit vraiment dans cette ambiance, qui est vraiment propre à cet album. Oh, there she stands, this lovely creature. There she stands with her hair full of ribbons and green gloves on her hair. This lovely creature, yes I asked, would she walk with me a while through this night so vast? C'était un extrait de Lovely Creature de Nick Cave sur l'album Murder Ballads. Je suis toujours avec mon pote Guiche. La Bretagne va bien là-bas?
La Bretagne va bien, ça.
La Bretagne va bien.
Ça kénavote.
Et bah super, joyeuse crêpe. on le voit avec cet extrait de Lovely Creature. C'est une chanson qui a une forme très particulière et qu'on va retrouver sur la plupart des chansons de cet album, à savoir des motifs répétitifs très courts avec relativement peu de variations. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le storytelling. Nikkei nous raconte une histoire. Est-ce que tu peux nous donner ton impression là sur ce, vraiment cette forme de genre de chanson?
Oui, bah, ça met vraiment effectivement le texte au centre des morceaux, quoi. C'est-à-dire que bon, les instrumentalisations sont toujours très très baroques, et comme ouais. tu dis, ouais, sur des boucles très très courtes. Ouais. C'est un truc qui peut laisser un peu à la porte au début si on ne sait pas vers quoi on va, mais en fait ça contribue vraiment à cet aspect de train fantôme, d'histoire d'horreur, où ça pose une ambiance. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il fait maintenant des musiques de film. Hein,
oui, ça fait très musique de film. Ouais,
ça fait très musique de film, ça fait très immersion dans une. Ça pose surtout des ambiances, en fait. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve assez remarquable, notamment dans cet album, et qui est assez éloigné de Where the Wild Roses Grow, qui fait Calminode, où là on est sur une structure très couplet-refrain classique, entre guillemets, quoi.
Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que là, dans beaucoup de chansons, d'un point de vue de la métrique, il est très souvent très libre. Il peut avoir des vers courts, des vers très longs. Pareil, au niveau des rimes, c'est vraiment très libre. Il a des mélodies qui sont quasiment monocordes, en fait.
Ouais.
C'est à cheval entre la mélodie et le texte parlé. En tant qu'auditeur non anglophone, je sais que tu parles anglais relativement bien. Est-ce que tu arrives à comprendre les textes, ou est-ce que tu as besoin de les lire pour vraiment t'immerger dans les chansons?
Non, alors j'ai quand même besoin de les lire. En fait, je pense que si je faisais l'effort, je comprendrais ce qu'il raconte, mais le fait de le lire, en fait, ça me donne une dimension supplémentaire d'écoute. Alors ça, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça sur Song of Joy, par exemple,
ouais.
où en lisant la chose, pendant qu'il le chante, tu t'attaches encore plus à la manière dont il le chante, en fait. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus te centrer là où il va mettre ses intonations, et je trouve que ça te donne une lecture vraiment supplémentaire sur les chansons, et notamment sur Song of Joy, je trouve, où il y a un sens caché qui est intéressant. Mais ouais, ce côté scandé parler, ça me plaît bien. Mais sinon, oui, pour te répondre, les textes, je suis plus à l'aise en les lisant quand même. D'autant que c'est un album que j'ai écouté gamin, tu vois. Enfin, j'avais 15-16 ans.
Oui.
J'avais pas
encore anglais très bien.
Ouais, parce qu'il y a du vocabulaire un peu costaud,
oui, oui,
quand même.
Même en les lisant, c'est compliqué à comprendre. Ouais,
ouais. Ouais,
ouais. Ouais, ouais. Bah, tu parlais de Song of Joy, on va en passer un petit extrait, et puis j'aimerais bien qu'on y revienne juste après.
Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay, and my bones are cold right through. I will tell you a story of a man and his family, and I swear that it is true. 10 years ago, I met a girl named Joy. She was a sweet and happy thing. Her eyes were bright blue jewels, and we were married in the spring.
On vient d'entendre un extrait de Song of Joy sur l'album Murder Ballads de Nick Cave. Tu nous parlais de sens caché pour cette chanson. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors sans se cacher, bon, c'est pas si caché, mais en fait j'en ai parlé un petit peu
avant, quoi.
Ouais, je suis désolé, j'ai un peu teasé pour rien. Non, mais en fait j'en ai parlé avec mon épouse. Je voulais savoir ce qu'elle comprenait du sens de cette chanson. Du coup, je vais un peu renverser l'exercice là. Je vais te poser la question. C'est moi qui pose la question. Qu'est-ce que tu penses de cette chanson, en fait? Qu'est-ce que t'en as compris?
Alors, qu'est-ce que j'en ai compris? Alors déjà, je vais revenir sur l'histoire qu'elle raconte.
Ouais.
De mémoire, donc c'est l'histoire d'un homme qui épouse une femme, avec qui ils ont des enfants, et puis un jour, il s'absente de la maison, et quand il revient, sa femme et ses enfants ont été assassinés, et lui, ensuite, il part, et il va mener une vie de vagabond.
Ouais, ok.
Voilà.
Et alors,
premier degré.
Voilà. Et alors pour moi, bon, je vais pas chercher très loin, mais pour moi, en fait, il est évident que c'est lui qui a tué sa famille, en fait.
D'accord, ok.
Et le truc qui me... Et sur les coups dont je te parlais, là, de lire le texte en même temps que écouter vraiment comment il met l'intonation, c'est que typiquement, tu vois, à la toute fin, quand il dit donc « Are you beckoning me in ?», ça veut dire « Est-ce que tu me fais rentrer ?» donc, parce qu'il parle à quelqu'un qui est, on imagine qu'il est peut-être devant la maison de quelqu'un ou dans un hôtel.
Oui.
Et quand il dit
parce qu'il s'adresse à quelqu'un pendant la chanson.
Ouais, voilà, il raconte son histoire en fait. Je vais trop vite. Oui, oui. Il raconte son histoire à quelqu'un et à la fin il lui demande de l'inviter chez lui et il le dit mais avec une intonation, c'est Are you beckoning me?
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment, ouais. tu le sens pas stable en fait ce mec. Alors bon, il a vécu un truc traumatisant, mais tu le sens pas stable.
Ouais, ouais.
Et il y a plein de petites touches en fait dans ce morceau où je vois ce sens un peu caché, c'est-à-dire que il y a un moment où il décrit la scène, donc c'est absolument épouvantable. Hein. Il raconte qu'il a retrouvé sa femme et ses trois filles ligotées avec du scotch et poignardées à multiples reprises. Et au moment où il raconte ça, t'as une petite mélodie derrière avec des nappes de synthé là, où on dirait une mélodie un petit peu de fête foraine, tu sais, ça fait vraiment cette ambiance, encore une fois, de film d'horreur un peu vieillot, où tu vois le truc en noir et blanc, le carrousel qui tourne, enfin, t'as vraiment cette ambiance un peu pourrie, quoi, tu vois, vraiment de...
Alors, c'est génial, parce que l'arrangement, en fait, te donne des indications en sous-main, en fait, par rapport aux vraies intentions du texte.
C'est comme ça que j'interprète, ouais,
ouais.
Et... Autre chose, c'est à la fin, il est en train de raconter son histoire, donc et il ponctue son histoire de petites phrases extra-diégétiques où il va dire, il parle à son interlocuteur et il lui dit, oh là, ça commence à se rafraîchir hein, quand même. Je pense que demain, il va peut-être y avoir une petite gelée quoi. Enfin, il est en train de raconter donc son histoire de sa femme et ses filles qui sont assassinées d'une manière horrible.
Et puis il va dire, Evindelia à côté.
Ça s'est un peu rafraîchi là, hein, non ouais. Peut-être remettre une petite laine quoi. Tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est que ce mec en fait. Tu vois, tu sens vraiment que le mec est pas stable.
Ouais, d'accord.
Et en creusant un peu, le truc qui m'a vraiment convaincu dans ce sens, ce double sens, c'est qu'il dit que donc le mec, le tueur, il cite du John Milton au mur. Donc John Milton, un écrivain anglais qui a écrit notamment Paradise Lost.
D'accord.
Et en tout début de chanson, il a une phrase alors, où il dit « Farewell happy fields, where joy forever dwells, hail horrors, hail ». Et ça, c'est une citation de John Milton, en fait.
D'accord.
Donc, pour moi, tu vois, c'est un petit indice aussi. Moi aussi, je peux citer du John Milton. Pour moi, c'est clairement l'indice que c'est lui le meurtrier, en fait.
D'accord, ok.
Donc une petite clé cachée, quoi.
Ouais, donc non seulement on est dans du vrai storytelling comme ça, mais en plus, ça fait un peu jeu de piste à travers toute la chanson, dès qu'on met un petit peu les mains dans le moteur, quoi.
Ouais, là,
c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est clairement ma chanson préférée de l'album. Alors c'est celle qui ouvre l'album. On est tout de suite dans l'ambiance. On reparlera un petit peu des musiques après. Il y a quelque chose que je trouve assez fascinant. Alors je suis pas allé aussi loin dans l'interprétation, mais moi je suis plus resté sur quelque chose de premier degré au niveau de mon écoute. On a l'impression qu'il parle à 2 mm du micro. On entend ses sons de bouche. Là, il est dans la pièce. Le mec qui te chuchote son histoire à l'oreille. Et c'est là-dessus sur une musique qui est complètement comme tu disais, baroque. Ça fait un espèce de romantisme obscène qui rend vraiment très bien avec la musique et cette répétition. Je crois qu'il y a 8 couplets comme ça. Pour moi, c'est vraiment ma chanson préférée. Au niveau des musiques, parce que voilà, si les textes en tant que non-anglophones ne nous parlent pas à première vue comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire des musiques? Donc on les a déjà un petit peu décrites, hein, à chaque fois il y a une ambiance très, très glauque, obscène. Comment ça te parle maintenant? Comment ça t'a parlé à l'époque d'emblée?
Oh bah, sur exactement ce que tu décris, oui, sur l'ambiance que ça pose, sur ce côté inquiétant, quoi. Moi c'est ça qui me plaisait. Et puis Nick Cave aussi, tu vois, même physiquement, quand tu le vois, c'est un mec, il est grand, il est super maigre, il a les cheveux noirs.
C'est un vampire pour
noir,
moi.
Ouais, exactement, c'est ça, ou le croque-mort de Lucky Luke, tu vois.
Exactement.
Non, mais tu vois, ce type, ouais. Et quand tu le vois, lui, te raconter des horreurs comme ça derrière son piano... Mm. Ah, t'as du mal à pas te projeter sur. Attends, mais ce qu'il me raconte, c'est une histoire ou c'est quoi là?
C'est ça. C'est très violent les textes et par contre les musiques ne sont pas violentes quoi. C'est lent.
Non,
c'est,
du tout. Ouais.
Il y a vraiment, c'est très acoustique. Hein. Il y a pas de guitare saturée ou de quoi que ce soit, de grosses percus. Ça prend son temps et puis vraiment ça te pose un décor là. Quand tu parlais de musique de film, on est vraiment dedans.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur Song of Joy, tu vois typiquement si le tout début de la chanson. C'est quasiment que de la batterie, en fait, sur du tom bass. Là, tu sais, c'est vraiment cette ambiance de boum, 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 boum. Enfin, t'as, avec une sorte de nappe au synthé derrière, mais t'as très peu d'instru, quoi. Donc, C'est ça, si tu disais que effectivement les textes en tant que non anglophones, ils peuvent nous laisser à la porte, bah, je pense que la musique, elle peut aussi nous laisser à la porte rapidement, parce que c'est, enfin ouais, tu c'est pas quelque chose que t'es habitué à écouter, quoi. C'est pas, t'es pas sur une structure classique, quoi.
Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de chansons qui sont, voilà, sur ce même plan. On va peut-être pas tout parler de toutes, mais j'aimerais bien qu'on en évoque certaines. Il y en a une que je trouve assez incroyable qui s'appelle The Curse of Mill Haven. J'en passe un petit extrait et puis on en parle juste après. My name is Loretta, but I prefer Lottie. I'm closing in on my 15th year. If you think that you've seen a pair of eyes more green, then you sure haven't seen them around here. Well, my hair is a yeller and I'm always a comb-in. La 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 la. La 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 la. My mama often told me that we all got to die. C'était un extrait de The Curse of Mill Haven, de l'album Murder Ballads de Nick Cave. Est-ce que tu peux nous résumer en gros l'histoire de cette chanson ?
Oui, bah alors, l'histoire de Mill Haven, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lottie, qui nous raconte qu'elle vit dans cette ville, qu'elle porte pas beaucoup en affection, hein. Elle dit que c'est une ville cruelle, méchante et ça, alors je sais plus ce qu'elle le décrit précisément, mais et une ville dans laquelle il s'est passé, où il y aurait un curse, donc une malédiction qui entraînerait la mort de beaucoup de gens. Donc on apprend que il y a un chat qui a été retrouvé cloué sur une porte, qu'il y a des enfants qui sont tombés dans un lac gelé, que enfin il y a toutes ces joyeusetés comme ça, et qui donc alors attention spoiler, c'est qu'en fait on se rend compte que c'est effectivement la petite fille qui est à l'origine de tout ça, et elle finit dans un hôpital psychiatrique où elle dit qu'elle vit sa meilleure vie avec du Prozac et des psys et que tout va bien, quoi.
D'accord.
Donc,
okay.
Voilà.
On est bien.
Sur une ambiance, donc, comme on a pu écouter, très un peu, encore une fois, d'une ambiance de fête foraine, quoi. On a l'impression que tout le monde va danser, ou avec le refrain qui fait la 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 la. Enfin, c'est
ouais.
C'est complètement dégénéré. Et puis bon, alors, ouais. Il y a un body count de tarés, enfin, où je sais pas combien de personnes meurent. Il y a peut-être 30 personnes qui meurent dans cette chanson.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a souvent des références à la religion. Il parle, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais bon, la petite fille, elle justifie en fait ses meurtres parce que de toute façon, les créatures de Dieu sont destinées à mourir, comme ça.
C'est ça.
Je crois que Nick Cave a un rapport particulier à la religion. Il a eu une éducation religieuse plutôt stricte en fait, et il en fait référence relativement souvent dans ses chansons.
Ouais. Alors il dit, je suis pas très au fait de son rapport à la religion, hein, mais je sais qu'il dit qu'il lit la Bible quand même, enfin qu'il a lu la Bible de nombreuses fois. Il y a effectivement de nombreuses références, même dans Omalis Bar, un moment où il est question de Saint Sébastien et de d'icônes comme ça très religieuses. Donc on sent que ouais, il a une éducation religieuse. Cela dit, pour avoir vu certaines de ses interviews, c'est difficile de le cerner parce qu'il dit qu'il sait pas trop non plus lui où il est. Selon le moment où tu lis les interviews, bon, il y a des fois, il est rarement dévot, hein, mais en tout cas, il est pas athée, ça c'est sûr. Cela dit, t'as pas l'impression qu'il porte la religion en tant qu'institution. Il met pas ça sur un piédestal, quoi. Je pense que la foi est très personnelle pour lui et que c'est pas toujours clair en fait de où il se situe.
D'accord. Mais je pense que c'est intéressant parce qu'il en joue un petit peu dans ses textes. Le fait que ce soit pas très clair pour lui, ça lui permet d'en jouer, de mettre peut-être des doubles sens dans certains textes. Je pense qu'il a pu se nourrir de ça pour sa création. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu. Alors, il y a une chanson qui est. Tu en as parlé un petit peu, c'est O'Malley's Bar, qui est une chanson absolument incroyable, puisqu'elle fait 14 minutes 28. On va en passer un petit extrait, comme pour les autres, et puis on en dit deux mots après. I am tall and I am thin, of an enviable height. And I've been known to be quite handsome in a certain angle and a certain light. Well, I entered into O'Malley's, said O'Malley, I have a thirst. O'Malley merely smiled at me, said you wouldn't be the Celle-là, elle est vraiment, je sais pas si c'est pas la chanson centrale de l'album, tu vas nous en dire deux mots après, juste sur la forme, donc elle dure plus de 14 minutes, c'est un espèce de pattern de 18 secondes qui est bâti sur deux accords et qui est répété je ne sais pas combien de fois, et qui raconte l'histoire d'un meurtre de masse, encore une fois, avec une dimension sexuelle complètement glauque. J'ai l'impression que c'est une chanson assez centrale. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de la position de cette chanson sur l'album ?
Oui, alors O'Malley's Bar, c'est la chanson en fait qui a été écrite. C'est un peu la chanson qui a donné naissance à l'album, parce que c'est une chanson qu'il avait écrite, que les Bad Seeds ne savaient pas sur quel projet la mettre, parce qu'elle est tellement singulière.
Je te coupe deux secondes. Les Bad Seeds, c'est le groupe de Nick Cave. Hein,
Pardon. On parle souvent de Nick Cave and the Bad Seeds. Après, c'est vrai que c'est souvent Nick Cave, quoi. Hein,
oui, oui. Oui. Bon. Oui, parce que les Baptistes, c'est un peu à géométrie variable, et puis... plus ou moins. Non, même pas.
Ouais, eh ben, voilà. Non.
Et ben, j'ai dit ta crotte.
Non, il okay. y a eu des changements, mais c'est les membres sont quand même assez réguliers depuis un moment.
D'accord, ok.
Mais mais après, bon, c'est vrai que c'est... quand tu vas voir Nick Cave and the Bad Seeds, tu sens que tu vas surtout voir Nick Cave.
D'accord.
And the Bad Seeds. Okay. Mais parce que tu vois, même quand il présente son groupe, c'est... À la fin, il va dire « The Bad Seeds », et c'est tout. Enfin, tu vois, il va pas présenter musicien par musicien. Ouais, okay. C'est effectivement Nick Cave. Bon, bref, parenthèse close. Donc cette chanson, chanson très singulière, comme tu l'as dit, qui raconte l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et ça commence comme une mauvaise blague, mais c'est pas ça du tout. Hein. C'est donc un type qui rentre dans un bar et qui en fait décide de tuer tout le monde. Voilà.
Pur et simple. En détente, en toute détente.
Voilà, c'est ça. OKLM, comme disent les jeunes. Et du coup, donc cette chanson avait été écrite avant, et c'est parce qu'il voulait mettre cette chanson quelque part qu'il crée l'album Murder Ballads, en fait.
D'accord.
Et la légende veut que ce soit une chanson qu'il ait écrite un jour où il avait une gueule de bois phénoménale dans un hôtel, et où il y avait trop de bruit, et où du coup il a regardé autour de lui, et il s'est dit, comment est-ce que je pourrais tuer ces gens, au moins pour moi-même ? C'est-à-dire sans aller en prison, mais comment est-ce que je pourrais me débarrasser de tous ces gens ? Donc tu sens vraiment le truc cathartique où il avait besoin de se débarrasser de ça, quoi. Et donc après, oui, comme tu dis, c'est une dimension sexuelle et presque religieuse à un moment, parce qu'il dit qu'il est marqué du sceau de la noirceur. Je ne sais plus comment il pose ça dedans, mais bon. Et à chaque fois, donc chaque meurtre est très graphique. Alors il va nommer à chaque fois la personne qu'il va tuer, et puis il va dire, je lui claque un cendrier sur la tête, lui, je lui tire une balle, lui, je vais pas m'épandre, mais... Ouais, c'est une chanson un peu fascinante, quoi. Moi, je sais que c'est la chanson que j'écoutais le plus quand j'ai découvert l'album, parce que c'était vraiment ce côté complètement horrible, en fait. Ouais, c'est qui avec lequel j'ai ce rapport de répulsion, fascination-répulsion, quoi.
Ouais, exactement, intéressant. Et c'est vrai qu'elle est elle est très longue, elle dure un quart d'heure. Donc je l'ai écoutée à l'époque quand j'ai acheté cet album. Après cet album, je l'ai pas écouté pendant des années. Je l'ai réécouté pour préparer l'épisode, et pendant 14 minutes, mais c'est hyper répétitif et on s'ennuie pas, quoi. Moi, c'est ça que je trouve facilement dans les arrangements. Alors, je comprenais pas vraiment les paroles sans les lire, mais on se laisse emporter par l'ambiance. Je trouve que c'est arriver à créer des choses comme ça, des tableaux comme ça. Moi, je trouve ça complètement fascinant.
Ouais, c'est parce que son flow n'est pas. Enfin, il y a une progression, quoi, dans ce qu'il dit.
C'est-à-dire qu'au
début, il parle avec sa voix nickel, très monocorde, et puis bon, il s'énerve de plus en plus. Enfin, tu sens que oui, ça remonte, et à la fin, ça redescend quand les flics viennent le chercher. Enfin, et puis c'est ponctué aussi de trucs de bruits très bizarres où il va faire du 1, 1, 1, enfin des trucs comme ça, tu sais, ou des onomatopées, il va compter, il va. Enfin, c'est très bizarre. Oui, tu sens que tu t'es face à un personnage très instable, quoi.
C'est ça. Ouais. Ok. À côté de ces chansons-là, il y en a deux sur l'album qui détonne un peu, qui sont Where the Wild Roses Grow, dont on a passé un extrait tout à l'heure, et puis Henry Lee, qui pour le coup là sont des chansons avec un format beaucoup plus classique, c'est-à-dire couplet, refrain. C'est deux chansons qu'il interprète en duo avec deux femmes. Where the Wild Roses Grow, qu'il interprète en duo avec Kylie Minogue, donc une très grande star australienne de cette époque-là, donc qui est peut-être un peu en décalage avec le côté un peu underground de ce qu'il peut faire. Et puis l'autre chanson, Henry Lee, qu'il interprète avec PJ Harvey, avec qui il était en couple à l'époque. Je vais passer un petit extrait d'Henry Lee maintenant, et puis on en reparle juste après. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did deux chansons là que j'évoquais juste avant, qui sont beaucoup plus pop, avec vraiment de la vraie mélodie, un format couplet-refrain, comment tu les appréhendes, toi ? Comment tu les juges au milieu des autres ?
Déjà, bon, alors, le truc moi qui m'avait marqué dès le début, c'était sur Henry Lee et Curse of Millhaven. On a exactement quasiment la même mélodie sur le la 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 la.
Exactement, enfin, ouais, c'est répétition.
Ouais, ouais. C'est un peu fou, je trouve, sur un album de très peu de chansons, d'avoir deux mélodies qui se répètent autant. Je sais pas si c'était voulu, si c'est pour faire comme deux chansons miroirs, parce que bon, elles ont pas grand chose à voir, je sais pas. Henry Lee, ça vient d'une chanson du 18e siècle qui s'appelle Young Hunting. Et While the Wild Roses Grow, une chanson qui s'appelle Dawn in the Willow Garden, donc où à chaque fois ce sont deux histoires de. Alors c'est souvent les femmes qui ramassent, hein, dans ces chansons-là. Hein.
C'est-à-dire que Henry, justement, c'est la femme qui tue l'homme.
Ouais, alors oui, mais dans l'histoire de base, en fait, elle la tue parce que il l'a mise enceinte et il veut s'en aller, en fait.
D'accord.
Ce qui n'est pas mentionné dans la chanson, mais ouais, bon, enfin, tu sens qu'à chaque fois c'est des parcours un peu torturés, quoi.
On est dans le crime passionnel là.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Oui. Et donc oui, bon, bah, effectivement, comme tu dis, c'est des chansons qui détonnent. C'est clairement Where the Wild Roses Grow. Kylie Minogue à l'époque, c'est, je pense, un peu l'équivalent de Britney Spears, quoi. Hein. C'est vraiment la pop star mondiale que tout le monde connaît. Je sais pas trop comment se fait cette collab qui est complètement improbable. Hein.
Ouais, c'est très étrange. Ouais.
Et elle contribue au succès de l'album, en fait, parce que Murder Ballad, c'est 1 million d'albums vendus. Je pense que c'est le plus grand succès de Nick Cave. Et je me dis, les gens qui ont acheté ça pour Kylie Minogue, ils ont dû tomber de haut, quoi, après écoutant le reste de l'album. Parce que,
je pense que Nick Cave, ça a bien dû le faire marrer de penser à ça.
Ouais. c'était peut-être un peu calculé aussi, je sais pas.
Mais... Oui, peut-être, ouais.
Mais c'est une chanson Where the Wild Roses Grow. Je pense que c'est une chanson que tout le monde a entendue au moins une fois. Il y a eu le clip passait assez souvent sur MTV à l'époque. On est sur une structure classique de couplet refrain avec une histoire d'un monsieur qui séduit une dame et qui finit par la tuer de manière parfaitement gratuite.
Et c'est deux chansons que tu aimes bien sur l'album ou pas personnellement?
Je les écoute, elles me dérangent pas, je les écoute, mais c'est D'accord. pas effectivement c'est pas mes préférées, mais je vais pas te dire que c'est les chansons que j'aime le moins de Nick Cave, en fait, hein. Mais je j'aime bien.
D'accord. OK.
Voilà.
OK. En parlant de second degré. Alors moi je les aime bien, hein, franchement. Bon, après c'est vrai que je suis très bon public sur des balades comme ça. Elles me vont très bien. Après c'est vrai qu'elles sont vraiment à part, hein, sur l'album, je trouve. J'encourage les auditeurs à aller voir le clip de Henry Lee sur YouTube là, que je trouve vraiment chouette. C'est un grand plan séquence sur un fond vert de Nick Cave et PJ Harvey là qui se répondent, qui se tournent autour, qui se touchent, qui s'embrassent. Moi, je le trouve vraiment très esthétique, avec très peu de moyens. Ils sont tous les deux pâles, vraiment vampiresques. Ils sont habillés pareil, coiffés pareil. Ils sont à la fois beaux, mais ils font peur. Je trouve qu'il y a, vraiment une ambiance. Bon, je prends les choses vraiment au premier degré, mais moi, c'est un clip qui m'a touché, ouais.
Je pense que, quand tu dis vampiresque, ils sont livides, mais parce qu'à l'époque, je crois qu'ils sont tous les deux junkies, quoi.
Ils sont tous les deux
complètement
ouais.
camés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils restent pas ensemble, c'est parce qu'ils sont dans une sorte de spirale d'autodestruction, là. Je lisais une interview, là, où Nick Cave, il dit que quand PJ Harvey l'a appelé pour rompre, il dit un truc genre, j'en ai lâché ma seringue, tu vois. C'est vraiment, ils avaient. Ouais. Des vies assez dissolues, ouais, c'est... Mais tu sens, ouais, que sur ce clip, il y a une certaine tendresse entre les deux, quoi. Enfin, c'est...
Ah oui, carrément, ouais, ils sont très complices, ils sont beaux dans leur malheur, je trouve.
C'est un peu ça.
En tout début d'interview, tu disais que c'est ton frère qui t'avait fait découvrir cet album, et puis Nick Cave, et qui t'a fait découvrir pas mal de musique. Je voulais savoir, d'une manière générale, dans ta vie de mélomane, comment tu as découvert des albums, comment tu as découvert des artistes, est-ce que tu as eu des mentors? Donc tu parlais de ton frère, mais il y a peut-être eu d'autres personnes.
Ouais, alors surtout mon frère quand j'étais petit, parce que j'ai écouté très vite beaucoup de rock, hard rock, tout ça, donc... à l'époque, c'était Nirvana, Guns N' Roses, Metallica, toute la partie
des années 90.
Aussi, Alice in Chains, Soundgarden, enfin tous ces grands groupes qui ont fait notre jeunesse, quoi. Hein.
Oui.
Donc ça, effectivement, c'était beaucoup par mon frère. Et puis ensuite, en grandissant, alors ça peut être par des connaissances et surtout aussi par des profs de musique. C'est-à-dire que moi, quand je me suis, donc je suis bassiste, hein, Quand j'ai commencé la basse, j'écoutais beaucoup de rock et je voulais faire ça. Et en fait, très vite, tu te rends compte que bah il y a autre chose derrière, quoi. Hein. Et surtout quand t'es bassiste, on peut te faire écouter de la soul, du funk, du jazz. Et ouais, mon prof de basse a été un catalyseur pour me faire évoluer vers d'autres styles aussi, des choses vers lesquelles je serais pas allé. Et même aussi du rap, tu vois, certains albums de rap avec des bons bassistes derrière. Enfin, j'ai pu jouer des morceaux de rap aussi.
D'accord.
Puis après, sinon, par quoi
Est-ce que, je sais pas, tu lis la presse musicale,
Non,
sur Internet un peu, savoir un peu, ou est-ce que des fois, on en parlait dans l'épisode avec Samy, dans le premier épisode des potes et des albums, des fois, il se laisse guider par les algorithmes, en fait. Il se met sur une plateforme de streaming et en se mettant un genre particulier, et puis on laisse dérouler la playlist qui est proposée. Ça permet de découvrir des choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais.
J'ai encore un rapport un peu vieillot, hein, la musique. J'aime bien encore écouter des albums et voir des artistes, en fait.
C'était ma question suivante. Ouais, est-ce que le format album, toi, te plaît particulièrement plutôt que
Ouais, j'aime encore ça. Ouais. J'aime bien écouter un album du début à la fin, parce que je trouve que ça raconte quand même souvent une histoire. Alors, c'est de moins en moins vrai, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu travailles beaucoup en single. Mais tu vois, typiquement, bah là, le dernier album que j'ai écouté, c'est le dernier album de Stupeflip. Je sais pas si tu connais Stupeflip, c'est un mec
qui c'est du
hip-hop, on va dire. Enfin, ça mélange beaucoup de styles, mais c'est, on va dire,
qui ont un style très particulier,
variété. Un style très particulier je peux un peu relier ça à Nick Cave, parce que t'as aussi cette histoire de je te crée un univers et encore une fois une atmosphère de train fantôme, un petit peu, tu vois, de fête foraine cheap, là, de je te raconte des trucs avec des monstres et puis j'ai toute une mythologie autour. Typiquement, je trouve que chez Stupeflip ça marche très bien. Et j'aime bien aussi me faire des plongées dans des artistes ou dans des styles, tu vois. Là, par exemple, alors ouais, quand tu parlais de mentor, j'écoute beaucoup de podcasts, moi. Et du coup, bah, j'écoute des podcasts de plein de styles différents, et donc ça m'amène vers plein de styles musicaux. Et notamment en ce moment, je suis en train de me faire une plongée dans le rap français, style auquel je ne connais rien du tout.
Ouais.
Et style que j'ai un peu du mal à appréhender, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a... tu sais, les métalleux parlent d'un truc qui s'appelle le mur du son. C'est-à-dire que quand tu fais écouter du Gojira à quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire qu'est-ce que c'est que ce bruit, en fait.
C'est ça.
Et,
ouais.
Et plus tu écoutes, plus tu dis ah non, mais d'accord, en fait, là, le batteur, il fait un truc de ouf. Là, il y a tel enchaînement. Enfin, bon, tu vas beaucoup plus t'attarder sur le truc technique. Et bon, moi, c'est un truc que j'ai ressenti avec le jazz, hein, où pareil, hein, au début, tu écoutes des morceaux de jazz. Donc, en tant que bassiste, j'ai écouté Jaco Pastorius, qui fait du jazz fusion, un truc complètement inaccessible au début. Et en fait, bah, quand tu commences à jouer ces morceaux et à comprendre comment ils sont construits, tu vois l'intérêt, quoi. Et là, en fait, je suis avec le rap français, je suis un petit peu à l'étape zéro de ça, c'est-à-dire que je suis un peu à la porte à ne pas comprendre ce que j'écoute, à pas beaucoup aimer, mais j'ai quand même envie de faire l'effort, tu vois, d'aller au-delà de ça pour aller au-delà de la barrière de l'autotune et des obscénités, quoi, tu vois.
Et c'est vrai que je trouve que du coup les émissions et les podcasts, ça peut être un bon moyen, parce que justement t'as quelqu'un qui va permettre de te décoder des choses, d'aller te montrer des éléments importants que t'aurais pas compris. Moi je suis un peu comme toi, j'écoute pas mal de podcasts, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à ça, et souvent voilà, ça te pointe les choses que t'as loupées en ayant écouté d'une oreille un peu distraite. Nick Cave, tu l'as déjà vu en concert, j'imagine ?
Oui, alors je l'ai vu deux fois. Ouais.
Quelle impression ça t'avait fait ?
Bah, c'était un peu fou, parce que, en fait, j'avais été surpris par sa proximité avec le public, en fait.
D'accord.
Tu sais, vu ses chansons et vu un peu sa carrière, donc tu sais, de mec un peu froid, distant, tout ça. Tu sais, moi, je l'imaginais très, bah, très distant avec son public, en fait. Et en fait, pas du tout. Il se met en scène complètement, hein. C'est-à-dire qu'il est, c'est comme je dis tout à l'heure, hein, les Bad Seeds, c'est le décor, mais le personnage principal, c'est lui, quoi. Hein. Il est souvent devant, vraiment très devant, et il va se pencher sur le public, tu sais, pour aller toucher les gens régulièrement, tu vois. Il va vraiment aller au contact des gens, et bah, il déborde de charisme, en fait. C'est un type, quand t'es devant lui, tu sens vraiment petit, quoi. C'est un peu la statue du commandeur, tu sais, ce mec, il a une stature, alors qu'il doit peser 60 kilos, hein, il a vraiment cette stature vraiment imposante au-dessus de toi, là. En plus, il est toujours sapé, il a des costumes, il a des
toujours
bagues.
Toujours très classe, ouais, je trouve.
Ouais.
Au moins récemment, quoi. Ouais.
Oui, bah, ouais. Je pense qu'il est, il est toujours dans ce... Alors, il est passé récemment à Rock en Seine, j'y suis pas allé, mais je l'avais vu à Paris deux fois, au Zénith.
Ouais.
Et non, il a ce côté vraiment, et puis il se donne à fond, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas... Il est bon sur scène, il est vraiment doué sur scène, il bouge dans tous les sens, il transpire, il passe au piano, après il va rechanter. Enfin, c'est... Il y a des prestations qui valent le coup d'être vues sur le net, hein, notamment Jubilee Street, par exemple.
Ouais, j'y pensais, tu m'en avais déjà parlé il y a quelques temps.
C'est folle, quoi.
Ouais, c'est un morceau qui est très très long, un énorme crescendo d'intensité,
exactement, ouais.
De tempo, de tout. Ouais. Avec encore la même forme, même forme de chanson,
la boucle,
une mélodie très courte qui est reprise. Sauf que là, bah, sur Jubilee Street, là, elle est vraiment, ça part très lent, ça finit très rapide, et c'est calme au début, très violent à la fin, c'est très long et on s'ennuie jamais. Ouais. Ouais. On arrive quasiment à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on se passerait pas un petit dernier extrait comme ça, tant qu'on est entre nous?
Bah, j'aimerais bien qu'on passe Staggerly parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Et si je pouvais dire 2-3 choses dessus.
Allez, je veux bien. Allez,
tu me le fais? Tu me le fais gratos?
Vu que je t'aime bien, ok, allez, Staggerly. There was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Staggerly. He wore rat-drawn shoes and an old Stetson hat. Had a 2840, had payments on that. Staggerly. Staggerly de Nick Cave. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire?
Alors, Staggerly, déjà, je trouve que l'histoire est incroyable parce que donc, ça vient d'une histoire vraie, d'un vrai fait divers. D'un type, donc d'un gars qui s'appelait Staggerly, qui aurait tué un autre parce qu'il lui avait piqué son chapeau.
D'accord.
Tu vois,
chapeau.
Non, mais je trouve qu'à l'époque, ils avaient des manières de régler leurs problèmes qui étaient quand un peu plus expéditives, on va dire. Non, mais je trouve que l'histoire est quand même assez rocambolesque. Et puis, moi, ce que j'aime bien cette chanson, c'est que, en fait, ça commence avec vraiment une bruit de guitare étouffée, tu sais.
Ouais.
C'est vraiment des guitares avec juste des petits coups de médiator qui étouffent le truc et une grosse basse vraiment, vraiment lancinante, tu vois. On est encore sur des boucles très courtes.
Ouais.
Et moi, ce que je vois quand j'entends ça, c'est des éperons. Tu vois,
d'accord.
Je vois un mec avec le bruit de la guitare là qui fait clac, clac, clac. Tu vois, je vois vraiment le mec qui marche, qui arrive. Pour moi, t'es dans un western, quoi.
Encore une musique qui te renvoie à une dimension visuelle forte.
Ah bah complètement, là je trouve complètement. Tu vois vraiment Staggerly qui arrive, et puis bon, après l'histoire est très expéditive, hein. Il arrive, il dit au barman, tu sais qui je suis, le mec il dit non, je m'en fous, hop, bah je te bute. Bon voilà,
c'est... Ok. Et on en fait une belle chanson.
Voilà, et on en fait une belle chanson. Et puis, et là à la fin justement, tu disais pas, c'est très acoustique, pas trop de guitare, mais à la fin là t'as une sorte de cacophonie de guitare électrique, de voix, de cordes, enfin c'est vraiment...
Elle est un peu funky, je trouve, même cette chanson, toi, par rapport au...
Ah, funky ?
Ouais, il y a un côté, je sais pas.
Ouais, je sais pas, t'as ce côté, hein, parce que t'as ces cocottes peut-être de guitare un peu.
Ouais, peut-être ça, ouais. Elle est moins dans l'ambiance balade comme...
Ouais, peut-être, ouais.
Comme d'autres, ouais.
Et bah, pour relier aussi à ce que tu sur la prestation live de Nick Cave sur cette chanson, en fait, après avoir commis tous ses méfaits, Staggerly arrive devant le diable et le diable lui dit bah, je suis là pour prendre ton âme, et il termine en disant bah, c'est les derniers mots que prononcèrent le diable parce que Stag a mis trois trous dans sa tête, tu vois.
D'accord.
Okay. il lui tira 3 balles dans sa tête, tu vois. C'est vraiment le côté badass jusqu'au bout, tu sais,
vraiment
méchant de film, mais qui est méchant jusqu'à
tuer le diable,
la méchanceté, quoi.
Ce qui est drôle, quoi, je trouve.
Ouais. Et voilà, ce qui est drôle, et je pense que du coup on peut peut-être conclure aussi sur l'humour, quoi.
Oui, oui. Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, cet album, c'est une blague, en fait. Et ça a beau être très premier degré, sur des meurtres très graphiques, je pense que tout ça, c'est une blague. Et comme tu l'as dit, quand il appelle Kylie Minogue pour le rejoindre, c'est pas innocent. Et ça se finit par une chanson qui est une reprise de Bob Dylan qui s'appelle « Death is not the end ». Enfin, tu vois, en point final, bon, bah voilà, t'inquiète pas, la mort, c'est pas la fin. Avec, en plus, il fait chanter tous ses copains, tu sais, enfin, t'as... tous les gens qui chantent sur cette chanson, comme tu disais, ouais, c'est, on dirait vraiment une sorte de karaoké un peu fin de soirée. Ah bah on fait les lacs du Connemara.
On a l'impression qu'on est à 5h du matin, que là, qu'il y a plus de bière dans les fûts, et puis que tout le monde voilà, se prend par l'épaule plein de sueur. Et puis.
Et chante un peu faux. Et,
ouais, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est
et pour moi, voilà, ouais, cet album, c'est en fait. Bah, c'est une bonne blague, quoi. Et, c'est, et je pense qu'en ça, c'est peut-être l'album le moins sérieux du groupe. Et j'ajouterais peut-être, en fait, le moins intéressant. Et là, plot twist. Parce que, ouais, t'as vu, je suis Shyamalan, moi.
Ouais. Bon, allez, on est obligé de tout recommencer l'épisode avec un nouveau regard maintenant.
Ouais, non, mais, bah oui, comme ça, voilà. Non, mais finalement, ouais, c'est peut-être l'album le moins. Le moins intéressant de tout ce qu'ils ont fait, quoi. C'est-à-dire
d'accord,
que,
ok.
Ouais. Je t'invite, du coup, à aller voir le reste de leur œuvre, mais.
Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, ouais. Mais c'est vrai qu'ils avaient dit, dans une interview, ils avaient dit, ils voulaient faire au début un album que personne n'aimerait, qui ferait joli sur une étagère dans une collection, mais que finalement, on n'écouterait pas. Et puis, au final, ça a été leur plus grosse vente.
Ouais, c'est ça.
Vraiment
ouais.
Dopé par un titre en particulier, mais.
Bien sûr.
Ouais. Ok. Moi, j'aimerais. Faire le lien entre cet album et un autre album, alors français pour le coup, un album qui s'appelle Le Verger, d'un musicien qui s'appelle Bastien Lallemand, qui est pas très connu, voilà, qui est un musicien du label Tôt ou Tard, donc sur le même album que Vincent Delerme par exemple. Et il a repris le même concept, c'est-à-dire que ce sont toute une série de chansons qui sont sur le thème du meurtre. Par contre, il aborde ça de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il a des ambiances beaucoup plus légères, des arrangements beaucoup plus légers, plus fins. On n'est pas dans le meurtre de masse, mais à chaque fois, c'est vraiment des choses... par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « L'empoisonneuse », je vais en passer un extrait juste après, comme ça vous pourrez voir. On est plus dans le meurtre caché, dans le meurtre presque intime. Et dans ses textes, il a beaucoup d'empathie à la fois pour ceux qui se font tuer, mais aussi pour les meurtriers, quoi. On arrive presque à avoir de l'empathie pour ces meurtriers. Moi, c'est un album que j'avais beaucoup écouté à l'époque. Il est plus récent, hein, je crois qu'il date de 2009. Je pense que Bastien Lallemand avait l'album de Nick Cave quelque part dans un coin de sa tête pour avoir fait quelque chose sur le même thème, mais je trouve qu'il l'a fait vraiment différemment. Et voilà, je vous encourage d'aller jeter une oreille. Je vais passer un extrait de L'Empoisonneuse, voilà, qui est une chanson que j'aime beaucoup, et puis ça pourra finir notre épisode de la meilleure manière, je pense.
Avez-vous pensé au poison ? Pour se débarrasser de ce garçon, pour envoyer dans les oignons cet insupportable petit con.
C'était un extrait de L'Empoisonneuse sur l'album Le Verger de Bastien Lallemand, qui faisait écho à Murder Ballast de Nick Cave. Je remercie les auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelque chose. Puis je vous encourage à écouter l'album en entier, en repensant un petit peu à ce qu'on a dit. Un grand merci Guiche d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. Et puis voilà, ta connaissance de l'album était vraiment éclairante.
Bah merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir de venir. Ouais.
J'espère vous retrouver tous bientôt pour un prochain épisode de Des potes et des albums. Et puis d'ici là, bonne musique à tous et à très bientôt. Ciao.
Ciao. Sugar.